Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI avec dans les thèmes du jour Eduardo Camavinga, le jeune milieu de terrain qui attire les regards et fait déjà tourner des têtes à 17 ans et 10 mois. Il devrait être titulaire parmi les Bleus en équipe de France, donc en Ligue des Champions. Est-ce trop tôt ou peut-être, on l'imagine, mettra-t-il ses crampons dans les traces de Kylian Mbappé? Un mercato prudent en ces temps de coronavirus. Ibrahimovic reste milanais, Rakitic redevient sévillan et Mané deviendra-t-il Blaugrana? Contrat et rumeurs dans Radio Foot. La belle victoire des footballeuses brésiliennes qui ont obtenu la parité de la part de la Confédération brésilienne de football, la CBF. Désormais, elles obtiendront les mêmes primes et indemnisations que Neymar, Coutinho, Marquinhos. Parabéns, meninas. Et nous en parlerons aussi avec vous, Étienne Moati. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre camarade de l'équipe, merci d'être là aujourd'hui. À vos côtés, Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et Xavier Barré. Bonjour Xavier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, préparé avec l'aide de David Finzel et avec Laurent Salerno ainsi que David Brocouet à la réalisation sonore. Radio Foot, c'est parti.
Milieu de terrain, Eduardo Camavinga.
Camavinga dans la surface, Camavinga, toujours la frappe superbe. Quel talent, quelle classe, quel joueur.
Représenter tous les Français et ce logo, il faudra le porter avec honneur. Dans ce stage et des matchs qui vont arriver.
Il semble se cacher derrière sa frange de petites tresses, mais le très jeune Eduardo Camavinga n'a pourtant pas froid aux yeux. Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps, le milieu de terrain du Stade Rennais a débarqué à Clairefontaine avec un grand sourire, hein, même s'il était masqué, on devinait son grand sourire. Et il ne s'est pas laissé impressionner par la taille de la chambre dont il a hérité dans le château, comme on dit, la belle demeure de Clairefontaine. Il a hérité de la chambre de Paul Pogba, empêché lui d'être avec les Bleus à cause du coronavirus. Alors sa décontraction à Eduardo Camavinga, c'est une belle arme pour passer avec succès le test de ses camarades, le bizutage.
C'est un meilleur qu'on ait les lingots d'or, soit tu adhères, écouté par les fans, écouté par les porcs. J'ai rêvé des Bahamas, des absolus d'ananas. Et je vais vers du paradise, et c'est qu'on est moche, elle enlève le M, elle rajoute un P, elle regarde nos poches, pété sous piche, ce soir j'ai la pêche, j'encaisse un chèque, j'oublie la reste.
Vous connaissez ces paroles? Alors, il chante soi-disant, mais c'est évidemment un rap.
Pour que nos vies soient meilleures, qu'elles s'améliorent, qu'on ait des lingots d'or. Soit tu adhères, écouté par les fans, écouté par les porcs. J'ai rêvé des Bahamas, sous absolute ananas.
Alors il s'agit de Nino, pour ceux qui ne le savent pas.
Eh ben, on était trois à ne pas le savoir, manifestement.
Je l'avais Nino. Vu dans l'équipe ce matin.
Voilà, mais... exactement. Sinon... Le titre s'appelle Outro, titre portugais apparemment. En tout cas, il a bien passé son test. Lui, il n'est pas le seul. Hein. Il avait d'autres copains comme Upamecano qui l'avaient passé aussi au même moment, c'est-à-dire à table traditionnellement dans la salle. Mais c'est plutôt balle au pied que micro en main qu'il est attendu, évidemment, Camavinga sous le maillot des Bleus. Et malgré la pression sur ses épaules d'adolescent en finissant, on va dire, mais 17 ans et 10 mois, c'est quand même l'adolescence, il assume tranquillement la pression. Écoutez.
C'est sûr, j'ai commencé très tôt en Ligue 1 et toujours espère jouer avec sa sélection un jour, et moi, par mon travail, c'est arrivé tôt et il ne faut pas trop se prendre la tête et vivre au jour le jour et profiter de chaque instant. Les éloges, ça fait toujours plaisir, et quand on sait que le sélectionneur a confiance en nous, ça fait du bien. C'est pas une pression en plus, mais c'est plutôt encourageant. Dès que le sélectionneur fait appel à toi, faut être prêt, faut être performant pour pouvoir revenir à la prochaine sélection.
Il a déjà l'air, lui aussi, je dirais, très mature, Xavier Barré, Eduardo Camavinga. Ah bah, c'est dans la lignée de Kylian Mbappé, ou finalement c'est aussi la marque d'une génération?
C'est certain qu'il fait preuve d'une étonnante maturité pour un garçon né en 2002 dans l'enclave de Cabinda, qui est de tristes souvenirs pour d'autres personnes, notamment pour les Togolais. Mais bon, voilà,
Enclave angolaise. Hein.
Ouais, il a suivi sa formation en France. On sait que maintenant, dans les clubs français, il y a des séances de préparation pour pour que les joueurs puissent parler aux médias et puissent parler très tôt. Donc il répond très bien aux questions. Certains sont très à l'aise, vous parliez de Mbappé. D'autres le sont moins, comme Ousmane Dembélé, qu'on a vu toujours plus en difficulté dans cet exercice. Lui, visiblement, il a beaucoup de facilité à ce niveau-là. S'il a autant de facilité avec les médias qu'il en a sur le terrain, effectivement, il a tout pour réussir.
C'est le premier joueur mineur, peut-être, à être titularisé sous le maillot des Bleus. C'est logique, selon vous, qu'il ait été appelé Étienne Moati?
En tout cas, c'était l'ambition de la Fédération française, puisqu'on a tout fait pour qu'il devienne français. Et évidemment, c'est un joueur qui, très tôt, a attiré les regards. Il était destiné, évidemment, donc, à arriver en équipe de France. À 17 ans, c'était pas évident quand même, parce qu'il y a du monde au milieu de terrain. Et il y a l'Euro dans un an. On pouvait imaginer que, comme Didier Deschamps a déjà fait rentrer pas mal de jeunes dans ce groupe-là, il considère que, finalement, Kamavinga pouvait attendre après l'Euro 2020, qui va se jouer en 2021.
Ah oui, c'est peut-être ça aussi.
Pour le faire rentrer dans le groupe, mais c'est vrai qu'il est étonnamment précoce, il a une maturité, puis il a surtout, au niveau football, des choses et un style et des caractéristiques que tout le monde n'a pas en équipe de France. Il joue la tête levée, il a une technique déjà hors du commun, il a une vision du jeu, il a beaucoup de qualités. Si Deschamps l'appelle si tôt, c'est que il peut faire l'Euro.
On en parle déjà beaucoup au-delà de la France, de ce joueur Bruno Constant. Est-ce que pour vous, il a déjà tout d'un futur grand? Parce qu'on se souvient quand Kylian Mbappé est arrivé lui aussi très jeune, déjà on lui prédisait et pour l'instant il est champion du monde et il correspondait aux espoirs fondés sur lui. Est-ce que pour vous, Kamavinga correspond aussi déjà?
Moi je me souviens que les premiers matchs qu'il avait fait, ça m'avait fait tout de suite penser à Peter Luxin. Qui avait débuté très jeune, à 16 ans.
Ce serait pas bon signe pour Kamavinga, parce que la suite de la carrière de Luxin.
Justement, il avait débuté très jeune à l'AS Cannes, après était parti à Bordeaux, il avait enchaîné transfert à l'OM. C'était parti très très vite pour lui. Il avait une maturité dans le jeu qui était exceptionnelle. Et très vite, très très vite, ça s'est écroulé. Toutes les promesses qu'on lui faisait, toute la grande carrière qu'on lui promettait, elle est jamais arrivée. Donc il y a des risques comme ça. Je pense aussi à Theo Walcott, qui était appelé en équipe d'Angleterre à seulement 17 ans et 75 jours. Pour la Coupe du Monde 2006, il a eu un beau début de carrière. Pareil, il avait un talent extraordinaire. Et au bout de quelques années, ça s'est un peu éteint. Donc j'espère que Kamavinga n'est pas appelé trop tôt, parce qu'il reste très jeune.
Et en même temps, tôt, c'est-à-dire on exige trop tout de suite.
Moi, je trouve que l'équipe de France arrive peut-être trop tôt. Pas trop tôt en termes de qualité, parce que les qualités, il l'a. Il a même une maturité sur le terrain qui est hallucinante. Et là, je trouve que ça se rapproche de plus en plus d'Mbappé qui, sur le terrain, donne l'impression d'avoir déjà 21, 22 ans quand il en avait 17, 18.
Surtout, il ne parlait pas de son âge, Mbappé.
Oui, mais il a la même maturité sur le terrain, la même aisance. Et après, le rapport avec l'équipe de France, je suis toujours un peu gêné quand un jeune arrive si tôt en équipe de France. Il y a le temps, on a le temps pour l'équipe de France.
Alors, on a le temps, mais on va écouter Didier Deschamps. Alors, on sait, c'est ce que je disais, qu'il remplace quand même, il vient au profit d'absence en milieu de terrain, évidemment.
Mais finalement, il manque toujours des joueurs quand on fait une liste.
Donc, exactement,
oui. Et peut-être d'autant plus, malheureusement, en ce moment. Et écoutons justement Didier Deschamps, très élogieux. Il s'explique un peu, mais surtout, on comprend très bien qu'il mise sur lui à long terme.
Il est jeune, ça vient vite, mais à partir du moment où il fait partie des 23, il est censé pouvoir jouer autant que les autres. Je le gérerai comme les autres. À partir du moment où il est là, il sera amené à avoir un certain temps de jeu, forcément. C'est considéré qu'il fait partie des joueurs qui sont susceptibles d'être dans la liste des 23. Là, il est venu plutôt de par les circonstances, mais je sais très bien qu'à un moment ou un autre, il a le potentiel, bien évidemment, pour faire partie intégrante de cette équipe de France tôt ou tard.
Voilà, tôt ou tard, et on sait donc qu'il y a 7 euros, désormais l'euro 2020-2021. Mais Xavier, peut-être, à un autre moment, Didier Deschamps y avait fait allusion, que le lien qu'il y a entre son adjoint, lui, qui est Guy Stéphan, et l'entraîneur de Rennes, qui est Julien Stéphan, donc
le fils de son
bras droit, est-ce que ça aide pour protéger ce joueur?
Ça aide surtout pour se renseigner. Parce qu'on sait que Didier Deschamps préconise toujours le rapport direct avec les entraîneurs des différents clubs pour avoir des informations vraiment sur la qualité du joueur, son aspect humain. Donc il le dit régulièrement en conférence de presse, je sais des choses en interne que vous ne savez pas. Donc là forcément c'est beaucoup plus facile pour lui de savoir comment ce gamin s'est intégré au collectif à Rennes. Bon, on a pu le suivre nous ces derniers mois, il a déjà une grande qualité. On l'a encore vu lorsqu'il est rentré lors du dernier match de championnat, tout de suite le match a changé. changé dès qu'il est rentré. Donc ses qualités techniques, elles sont indiscutables. Ses qualités d'homme, bien, on va les découvrir. En tout cas, les Bleus vont les découvrir. Mais là, ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il est avec un grand frère qui est Nzonzi, qui est déjà dans cette équipe de France championne du monde, qui est avec lui à Rennes en club, donc qui le couvre un petit peu. Donc il y a tout un contexte extrêmement favorable pour qu'il s'intègre facilement.
Il y a besoin, Étienne Moiti, de les protéger quand même, c'est très jeune.
Peut-être moins qu'avant. C'est des jeunes joueurs donc qui cassent tout. Donc
qui ont
quand
été
ils
bien
arrivent,
préparés peut-être.
Ils sont bien préparés. Ils étaient peut-être bien préparés avant aussi, mais l'état d'esprit a changé aujourd'hui. On n'attend plus. Bruno disait oui, c'est un peu jeune, c'est trop jeune pour arriver en équipe de France. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette génération-là se pose pas ce type de questions. Si vous êtes titulaire dans votre club, si vous avez des qualités, vous pouvez jouer. Pourquoi pas en équipe de France. Il y a quand même quelque chose qui plaide pour Camavinga, c'est qu'au milieu de terrain, il est capable de jouer absolument à tous les postes. Et ils sont peu de milieux de terrain finalement en France à pouvoir le faire. On l'a vu donc sur le but magnifique qui marque, qui peut être sur un côté avec des qualités techniques hors du commun. C'est quelqu'un qui peut jouer devant la défense parce qu'il joue la tête haute, il a une vision du jeu incroyable. C'est quelqu'un qui peut jouer en relayeur, c'est quelqu'un qui a du physique pour défendre et récupérer des ballons. C'est quand même beaucoup de qualité quand vous êtes dans un groupe de 23 pour un tournoi final.
Bruno, quand vous dites que c'est peut-être trop jeune, ça veut dire quoi? Que trop jeune, on est par exemple exposé, alors je parle même pas du test ou des problèmes médiatiques, hein, parce que ça aussi c'est une épreuve finalement pour ces joueurs qui sont tellement exposés, mais peut-être que ça les exposerait trop aux blessures?
Non, c'est pas trop les blessures, hein. C'est vraiment le fait de l'équipe de France, c'était ou ça devrait rester une récompense d'un parcours qu'on fait en club, et depuis quelques années, c'est moins le cas. Depuis quelques années, les sélections sautent carrément l'épreuve des clubs de ces jeunes joueurs. Il n'y a pas qu'en France, dans d'autres nations aussi. Il y a l'Angleterre avec Marcus Rashford qui avait très vite débuté en équipe d'Angleterre et il avait brillé, il avait marché, il avait marqué les 100 premiers matchs avec l'équipe d'Angleterre. Donc il y a aussi des contre-exemples. Moi je ne dis pas qu'ils l'ont pris trop jeune, je dis juste qu'il faut faire attention. On a vu un garçon comme Anthony Martial par exemple, qui a été appelé aussi très jeune et lui il s'est totalement écroulé. Il y a un garçon comme...
Il revient seulement après, il y en a plein, des jeunes comme ça.
Après je suis d'accord avec Étienne sur le poste. Le poste est extrêmement important et un jeune attaquant est plus exposé alors qu'un milieu de terrain, quand on vous donne déjà des responsabilités de jouer milieu de terrain dans un club de D1 à seulement 17 ans, c'est que déjà vous avez une maturité pour y jouer. Et lui s'est déjà imposé, il s'est imposé face au PSG, il s'est imposé en plein de rencontres avec une maturité exceptionnelle. Donc pour moi, je le classe vraiment dans le cas d'Mbappé. Je pense qu'on a affaire à un joueur qui est hors norme.
Étienne, vous pensez pas que c'est une récompense d'un parcours déjà en championnat ou dans son club ?
Non, mais je suis pas tout à fait d'accord avec la vision qu'a Bruno donc d'être sélectionné en équipe de France. Pour moi, c'est pas du tout une récompense d'une carrière. Non, c'est vous avez
pas
une utilité
des performances qu'on a fait au club. Il a même pas une saison en club.
Oui, mais il a du point de vue de Didier Deschamps et à peu près tous les observateurs les qualités donc indispensables pour atteindre le haut niveau international. Où il y est déjà presque. Moi, je pense que vous servez
champion cette année. Hein.
Vous servez à quelque chose dans l'équipe, dans le groupe dans lequel vous êtes appelé. Moi, j'ai connu une époque où c'est vrai, peut-être ce que en train d'expliquer Bruno existait, c'est-à-dire bon, quand un joueur avait une carrière sur deux, trois saisons, etc. Bah, finalement, il serait quand même raisonnable et sympa pour lui de l'appeler une fois en équipe de France.
Aussi.
Moi, je pense que c'était une erreur et qu'en tout cas, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus dur que ça, c'est-à-dire si vous avez 17 ans, que vous avez les moyens et que vous apportez quelque chose en équipe de France, vous êtes appelé. Et si vous êtes un bon joueur et de 25-26 ans, mais que vous n'êtes pas au-dessus, vous ne rentrez pas en équipe de France.
Il y a un autre élément qu'on évoque aussi souvent dans cette émission et sur lequel nos auditeurs en Afrique sont très sensibles, c'est que si on ne les prend pas très vite pour l'équipe de France, il y a le risque qu'ils aillent jouer pour un autre pays. Lui, il est né en Angola, il a un passeport congolais, il fallait lui montrer que la France tient à lui
Attends, il n'y a pas vraiment de doute sur le fait qu'il va intégrer l'équipe de France. Il n'y avait aucun doute sur lui.
La
fédération a fait les efforts et je pense
bien sûr parce que la fédération a fait les efforts pour ça.
Mais tu as dit toi-même, il y a un lien particulier avec Deschamps, Guy Stéphan et le fils de Guy Stéphan à Rennes, ce qui fait que la communication est très claire sur le cas Camavinga.
Oui, mais Deschamps est averti depuis deux ans
qu'il a un talent énorme à Rennes, qu'il a une maturité extraordinaire depuis deux ans. Il l'appelle deux ans après, c'est-à-dire qu'il est déjà au courant, il sait qu'il peut compter sur lui.
Souviens-toi comment ça avait été compliqué pour Deschamps de convaincre Nabil Fekir, par exemple.
Il y a eu
plein d'exemples de talents qui ont... qui n'ont pas porté le maillot bleu, ou qui ont commencé en espoir et qui à un moment ont basculé. Donc là, il y a intérêt, quand le joueur a le talent, même s'il n'a pas tout à fait l'expérience, à effectivement lui montrer qu'il a sa place en équipe de France. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il s'est tout à fait bien joué.
On parle pas d'un joueur qui a 20 ans ou 21 ans, on parle d'un joueur qui a 18 ans.
Oui, mais et après,
prenons le cas de... Après, il faut être sûr que le garçon soit fort dans sa tête, c'est ça. Il y a eu tellement d'exemples de gens qu'on a appelés qui se sont totalement écroulés derrière.
Ben, on est d'accord.
Et à l'époque, on a dit, bah oui, on les a peut-être un peu appelés trop jeunes, trop tôt. Et là, on en a un. Je dis pas que c'est une erreur, hein. Je dis juste que il y a peut-être le temps. On peut attendre la deuxième saison, qui est souvent difficile dans une carrière, où il faut confirmer. On pouvait peut-être attendre.
Bon, là, on est d'accord. Il y a plein d'exemples, effectivement. Ne serait-ce que celui qui a été appelé en renfort et qui a toujours pas joué en bleu, c'est Matteo Guendouzi. Il était en espoir, ils l'ont fait monter, et puis finalement, il est resté sur le banc. Et donc, pour le moment, bah, il est toujours pas international.
Et depuis ce moment-là, sa carrière en club a totalement décliné. Il est sorti de l'équipe, il est même maintenant presque placé vers la sortie du club, parce que son comportement a changé, parce qu'il a pris un peu la grosse tête.
Son comportement a changé, peut-être qu'il avait déjà des prédispositions pour avoir un comportement qui n'était pas exemplaire non plus.
Ça, on ne sait pas. En tout cas, Camavinga, ça a été très vite, puisqu'il n'a été qu'une seule fois dans l'équipe Espoir. Il n'était venu qu'une seule fois jusqu'à Clairefontaine. Eh bien, il y aura donc deux matchs des Bleus pour avoir sa première chance, Camavinga, samedi soir en Suède et mardi soir au Stade de France contre la Croatie. On y reviendra demain à ce match des Bleus prévu en Suède.
Le football est devenu un produit. Le produit, c'est le joueur.
On se dirige vers le transfert du siècle avec lui.
Bien sûr qu'on va discuter, on va réfléchir, on va voir s'il y a des belles opportunités.
Les Michel Platini, on n'en trouve pas tous les jours.
Show me the money. That's it, brother. But you got to yell that shit. Show me the money. I need to feel you, Jerry. Show me the money. Jerry, you better yell. Show me the money.
Et oui, une histoire d'argent, mais le marché des clubs pour enrichir les effectifs, le fameux mercato, est donc en vigueur, et cela jusqu'au 5 octobre prochain. On est dans l'intersaison, même si c'est un peu plutôt automnal que estival. Le contexte de la pandémie mondiale et les graves conséquences économiques qui en découlent semblent en tout cas rendre plus prudent, ou au moins moins dépensiers, certains clubs et dans l'ensemble les championnats européens. Quelques mouvements quand même. Ibrahimovic, le géant suédois, prolongé par le Milan AC. 11 buts, 20 matchs. En 20 matchs, ça suffit pour convaincre les dirigeants Rossoneri de le garder même à 38 ans, Étienne Moati.
Oui, là, il n'y a pas de problème de précocité. Je pense qu'ils le connaissent bien, ce joueur-là. Ils l'ont vu marquer pendant 20 ans et il marque encore des buts aujourd'hui en Italie. Tout le monde est ravi qu'il continue.
Belle histoire. Il part aux États-Unis plus ou moins pour la retraite à Los Angeles Galaxy. Hein, et il revient et en plus, il est toujours compétitif.
Oui, on ne doutait pas de sa volonté. On pouvait douter de son physique pour tenir donc... Et continue à marquer des buts en Serie A. Et il a montré qu'il était toujours performant. Franchement, ça surprend quand même si on connaît le sérieux de ce joueur, sa préparation athlétique. Mais bon, on a encore envie de le voir jouer longtemps.
Bah d'ailleurs, Zlatan a dit, si j'étais arrivé plus tôt, puisqu'il est arrivé au mercato d'hiver...
En toute modestie, toujours.
Voilà. Si j'étais arrivé plus tôt, on aurait gagné le championnat.
Ça pose peut-être une question sur la vraie nature des recrutements en Serie A. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les effectifs des clubs, et notamment des grands clubs, s'appuient sur des joueurs extrêmement expérimentés.
Confirmés, on va dire.
Pour pas dire à la limite de la pré-retraite. Aujourd'hui, on va plus en retraite au Qatar ou aux États-Unis, on va en Serie A.
Après, c'est un peu une tradition, mais en Italie, il y a souvent eu des joueurs de plus de 35 ans, voire 40 ans, qui jouaient, notamment au Milan. Il y en a eu beaucoup avec Paolo Maldini, avec Costa Curta. C'est une confiance aussi. En Italie, on n'a pas de problème avec l'âge. On peut avoir un peu plus de problèmes en France ou en Espagne.
Faudra voir quand même, parce que les résultats du foot italien, la mise à part le miracle de l'Atalanta en Ligue des Champions...
Ça peut poser la question sur le vrai niveau
les clubs, du championnat italien. Sont moins compétitifs aujourd'hui.
Mais est-ce que ça va être une tendance dans ce mercato et ces conditions très particulières? Est-ce que ça va être une tendance de finalement garder en gros des effectifs stables, Étienne Moati?
Bah, on sait bien qu'avec la pandémie de Covid-19, les championnats étaient arrêtés longtemps. Certains n'ont pas repris comme le championnat de France. Il y a eu des pertes donc très importantes pour tous les grands championnats européens. Donc il y aura forcément moins de mouvements. Il y aura forcément des transferts à des niveaux financiers moins élevés. Donc ça vous encourage, on le voit ce qui se passe aujourd'hui, par exemple même au niveau de l'effectif du Paris Saint-Germain, ça vous encourage à essayer de conserver votre effectif plus qu'à essayer de viser donc un renfort extrêmement spectaculaire. Voilà, on prendra moins de risques financiers cet été.
Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être, on en parlera sûrement quand on aura plus de faits concrets, mais apparemment Messi resterait à Barcelone et sans doute pour des raisons financières?
Voilà, je pense que Messi, il est hors cadre. Hein. Il ne peut pas rentrer même dans.
Il y a des rumeurs qui disent à Barcelone que finalement.
On ne peut pas essayer d'expliquer ce qui va ou pas se passer pour Lionel Messi par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire. Je pense que c'est au-delà le meilleur joueur du monde,
peut-être
le meilleur joueur de. Moi, je pense que c'est plus un problème. Je pense que c'est plus un problème de Barcelone de vouloir et de pouvoir lâcher ce joueur-là, parce que si vous êtes la direction actuelle du Barça et que quel que soit le tarif, Messi s'en va, vous avez tout simplement donc ruiné tout un peuple. Donc, c'est, je pense, ça la difficulté. Sinon, financièrement, il est possible si Barcelone paye Messi que Manchester City lui paye le même type de salaire. Et puis, un transfert peut toujours se faire. On a vu quand même que Cristiano Ronaldo est parti du Real pour la Juve pour 100 millions d'euros. Ce serait plus pour Messi,
là,
mais c'est accessible.
C'est plus un enjeu politique, là, qu'un vrai transfert ou qu'une histoire de contrat. Même si les histoires de contrat, elles pèsent, parce que si son contrat est valide et qu'il a encore un an de contrat, Barcelone peut le garder quoi qu'il arrive. Et là, on a plus l'impression que c'est le sentiment du président actuel qui veut surtout pas être celui qui vendra Messi. Donc lui, il peut très bien le garder, sachant qu'il sera pas de toute façon réélu. Donc le garder une dernière saison, et quand Messi partira libre, il sera plus président.
Mm-hmm. Avec la seule différence.
Mais Manchester City a les reins solides pour l'acheter à un certain prix. Hein.
Apparemment, de toute façon, les discussions, des rumeurs disent que Messi pourrait même s'exprimer sur le sujet, donc nous attendrons. Celui qui quitte véritablement Barcelone, d'ailleurs il est déjà parti, c'est Ivan Rakitic. Il a quitté donc les Blaugrana, parti à Séville, retourné même à Séville, où il avait déjà joué avant, c'est là qu'il avait débuté en Liga, avant donc le Barça, et d'ailleurs il avait même gagné une Ligue Europa, mais là-bas c'est presque une habitude. Il a promis en tout cas, en partant, de ne pas célébrer les buts qu'il pourrait arriver à marquer contre son club de cœur, dit-il, le FC Séville, donc, où il a un contrat de 4 ans à 33 ans. Quel bilan tracé, Xavier Barré, de son passage chez les Blaugrana? Il était arrivé très, très courtisé. Il était censé être les successeurs en milieu de terrain, peut-être de Xavi ou de Iniesta. Il y a eu une belle embellie, mais on a l'impression qu'il n'a pas tenu toutes ses promesses ou pas pu.
Moi, je trouve qu'il a quand même réussi à se faire sa place, parce que pendant ces 6 années, il était devenu un titulaire indiscutable dans un milieu de terrain, effectivement, où les places étaient très chères, parce qu'il y en a eu des recrues à ce poste-là au Barça, et surtout ces dernières années, et des joueurs qui n'ont fait que passer, des André Gomes, des Arthur, on va pas tous vous les citer. Donc lui, il est resté, il a toujours été là, toujours avec un état d'esprit, et moi, je crois que ce qu'il a sauvé, c'est sa qualité première, c'est son intelligence. Parce que c'est le joueur que on mettait pour justement contrebalancer ce dispositif tactique hyper offensif du Barça, avec seulement 3 défenseurs, avec encore Daniel Alves à l'époque qui montait beaucoup, et c'est Rakitic qui toujours faisait l'équilibre, qui était capable de venir renforcer le milieu de terrain, de renforcer l'attaque, de marquer, il a marqué des buts, d'ailleurs de la tête souvent.
36 buts
voilà,
en 310
donc
matchs.
C'est un joueur extrêmement intelligent, on l'a vu avec sa sélection nationale être le complément idéal de Modric et d'aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Donc c'est un joueur qui a souvent été sous-estimé parce qu'il était dans l'ombre, effectivement, des superstars du Barça, mais qui, à l'arrivée, a quand même contribué au résultat qu'a eu le club catalan ces dernières années.
Faut se rappeler que quand il arrive, en 2014, c'est donc l'équipe de Luis Enrique, cette saison-là, il gagne la Ligue des Champions, 2014-2015, superbe équipe, et il prend la place de Xavi dans le 11. En finale, il est titulaire, Xavi ne l'est pas. Et pour moi, c'est un joueur magnifique, c'est un vrai beau joueur, élégant, technique, raffiné, et qui a, pour moi, presque assuré la très compliqué de succéder à Xavi, hein. Même pour moi, il n'a jamais été remplacé. Mais dans ce milieu à 3, il a tenu sa place plutôt bien. Et après, je trouve qu'il y a eu une cassure au moment de la finale de la Coupe du Monde, après la finale de la Coupe du Monde face à l'équipe de France, où il a un peu disparu. On ne sait pas si c'était physique ou si c'est un contre-coup mental, mais on a pu retrouver le même joueur après cette Coupe du Monde.
Perdu. Est-ce que, Étienne, c'était peut-être mental? On sait qu'à un moment, le Barça, alors vrai ou pas, mais en tout cas, voulait l'échanger avec d'autres joueurs et mettait un peu Rakitic dans la balance, ce qui lui avait profondément déplu.
Oui, ça lui a déplu. Moi, j'ai quand même le sentiment que la petite baisse, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est un joueur que j'adore et qui a parfaitement réussi au Barça, je veux dire, sans bling bling. Et quand on voit les recrutements qui sont faits aujourd'hui au milieu de terrain...
Vous le comparez à Modric? C'est l'équivalent du Modric du Real?
En tout cas, il a eu quasiment la même importance au Barça qu'a pu en avoir. Voilà, qu'a pu en avoir Modric au Real, et c'est vraiment un transfert, je veux dire, d'un joueur qu'on a observé, qui jouait déjà dans votre championnat, qu'on a observé avant de le faire venir, et c'était une vraie réussite. Après, je pense que sur la dernière saison, la baisse me semble être quand même un peu physique. C'est plus quand même exactement le même joueur au niveau de l'impact, parce que tout ce qui a été dit est vrai, c'est un très beau joueur, très fin, très subtil, mais c'était aussi un joueur qui mettait de l'impact, un joueur qui courait énormément pour compenser donc le peu de repli des autres, et ça, il le fait quand même aujourd'hui un petit peu moins.
Un petit élément à préciser, c'est que sa femme est de Séville. Donc s'il retourne aussi à Séville, s'il retourne à Séville et qu'il signe un contrat d'aussi longue durée, c'est probablement qu'il a fait des concessions sur notamment sa rémunération pour revenir dans la ville de son épouse. Puis il y a un élément important qu'on a pas rappelé ici, c'est que contrairement à Modric qui restait la tête de gondole du football croate, c'est que lui il est pas né en Croatie, il est né en Suisse, il a grandi en Suisse, il a joué pour les espoirs suisses et ça avait fait un grand scandale en Suisse quand il avait choisi de jouer pour la Croatie. Donc il y a toujours cette petite ambiguïté vis-à-vis de son pays d'adoption, c'est qu'il n'est pas natif lui de Croatie, même s'il a ensuite porté le maillot d'Eva Treni très haut. Et donc du coup le fait qu'il aille à Séville, c'est presque, je veux dire, sa ville d'adoption. Logique. Parce que en fait c'est un peu un joueur apatride quelque part.
C'est un peu mieux que la Suisse quand même.
Oui, et il fait plus chaud.
Autre départ de l'effectif Blaugrana, c'est Arturo Vidal. Lui, il part en Serie A, hein, du côté de l'Inter Milan. Luis Suarez peut être attendu aussi du côté de la Juve. Mais quel crédit accorder à d'autres rumeurs? Écoutez ça, Bruno Constant.
Mané might take advantage here. He's not caught. He's still on his feet in the box. Given half a save. Mané with the follow. Sadio Mané gives Southampton the lead in the 13th minute. Well, the Saints attacking again. Given's missed another one. Mané! It's two in the space of just over a minute for Southampton. Lovely 1-2 down the left-hand side and Shea Long's away in behind the defence. Edge of the counter, squares it. Mané for a hat-trick! That's an unbelievable hat-trick to Sadio Mané! That's a hat-trick in 2.5 minutes for the
Unbelievable. Ces Anglais, toujours très prompts à saluer le talent. Mais effectivement, vous vous souvenez de ce match-là particulièrement?
Oui, vaguement. Enfin, il y a eu beaucoup, hein, des belles actions et des beaux buts de Mané.
Mais un hat-trick de Mané, ouais. C'était 3 buts en 2 minutes 56. C'est le record de la Première Ligue. Il jouait alors avec Southampton contre Aston Villa. Le triplé donc le plus rapide, c'était en 2015.
Oui, ça remonte un peu. Hein.
Mais qui était l'entraîneur de Southampton?
C'était
à
Ronald
l'époque
Koeman. Un certain Ronald Koeman. Il aimerait bien.
Voilà, il aimerait bien. Est-ce que vous croyez que ce sont que du domaine des suppositions, des rumeurs, ou qu'on attend d'autres événements pour éventuellement croire à ce que Sadio Mané pourrait quitter Liverpool pour le Barça?
Dans une information, le plus important, c'est pas tellement l'information, c'est souvent la source. Et la source, en l'occurrence, de cette rumeur-là, c'est, je crois, le Mundo Deportivo, un journal espagnol.
Catalan même.
Qui est pas réputé pour la fiabilité de ses informations, surtout qu'ils ont repris une information d'un site internet,
c'est pas sympa ça.
D'un site internet italien qui eux-mêmes l'avaient repris d'un journal anglais qui n'était pas lui réputé non plus pour sa fiabilité. Donc ça fait beaucoup de raccrocs pour une information.
Une vraie rumeur donc.
Et c'est surtout que Klopp a pas vraiment l'intention de se séparer de Sadio Mané. Il voulait anticiper le départ peut-être probable un jour de Mané ou Salah, qui sait, ils sont tous les deux sollicités par les deux grands d'Espagne, notamment le Real et le Barça. Et c'est pour ça qu'il voulait recruter Timo Werner de Leipzig, qui finalement a atterri à Chelsea. Donc, en plus, en ayant perdu Werner sur le marché transfert par rapport à Chelsea, il se retrouve un peu dépourvu. Et donc, dans ces cas-là, il ne peut pas lâcher ni Mané ni Salah aujourd'hui. Mané, il a un contrat jusqu'en 2023. Donc son contrat est béton. On parle même d'une augmentation salariale à venir. Il y a eu des discussions entamées depuis la fin 2019. Donc j'ai bon espoir que ça puisse arriver. Et après, il y a cette rumeur comme quoi il y aurait un clash entre Klopp et Mané depuis la saison dernière. C'est faux, totalement faux. C'est tiré des images où on le voit s'énerver quand il revient sur le banc, il a été remplacé. Il en veut à Mohamed Salah qui, à un moment donné, sur une action, une énième action, lui a pas filé le ballon, il a frappé plutôt que passer le ballon. Mais c'est plutôt à l'encontre de Salah. Et les deux joueurs avaient résolu le problème très vite avec Klopp dans le vestiaire. Donc il n'y a pas de souci Mané à Liverpool, même si un grand d'Espagne vient à Barcelone ou le Real, effectivement, ça fait réfléchir à n'importe quel joueur.
Etienne Moati, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec Bruno Constant.
Et Barcelone n'a pas l'argent déjà.
C'est pas que je ne suis pas d'accord, je trouve
c'est
un tout petit peu trop catégorique. Vous avez un grand club espagnol et Barcelone est un grand club et peut avoir un petit peu d'argent quand même, si jamais Lionel Messi t'amenait à quitter Barcelone, je pense qu'ils auraient un petit peu d'argent et des moyens de faire des joueurs. De toute façon, Barcelone va avoir l'obligation de faire des joueurs parce que Luis Suarez est déjà parti. Peut-être que Lionel Messi va partir. Et Griezmann n'est pas une grande réussite et Ousmane Dembélé est toujours blessé. Donc au niveau offensif, ils vont devoir prendre des joueurs. Si vous faites un transfert autour de 100 millions d'euros, comme on en parle pour Mané,
non,
lequel Mané
jamais.
Je trouve quand même assez catégorique.
Non, il partira pas à 100 millions d'euros, te le dis.
Bah alors, si
il partira même pas à moins de 150 millions d'euros.
Oui,
Liverpool a une politique sur les transferts, c'est eux qui décident. C'est eux qui imposent leur prix et c'est les autres clubs qui payent. C'était le cas avec Coutinho, c'est le cas avec Luis Suarez.
Oui, mais parfois,
ils ont un sens d'anticipation qui fait qu'ils maîtrisent les timings.
Il y a aussi besoin de régénérer un tout petit peu un effectif.
Non, mais pas la veille du championnat.
Et ça peut être compliqué de continuer avec le même trio d'attaquants pendant de longues saisons. Et après, pour Mané, c'est vrai que aussi peut-être pas la reconnaissance à la hauteur de son talent et des saisons qu'il fait en ce moment à Liverpool. Et j'ai le souvenir de ce que la cote que pouvait avoir Samuel Eto'o à Barcelone. Sadio Mané, s'il était au Barça, peut-être il y aurait un autre retentissement pour lui.
Xavier,
ouais, je suis plutôt d'accord avec Étienne Moati, parce que dire que on sait qu'en foot, parfois des transferts qu'on dit impossibles se réalisent.
Ça dépend du club.
Ouais, mais Barcelone a beaucoup à dégraisser. On a parlé de Rakitic qui est parti, d'Arturo Vidal, Arthur qui est parti à la Juventus, Suarez. Et y a l'incertitude Messi. Si Messi s'en va, ils vont avoir l'argent pour recruter.
On n'en sait rien.
On
n'a aucune garantie.
Ils vont faire une. Et surtout si Messi s'en va, ils allègent la masse salariale de manière colossale. Donc ils vont pouvoir faire un effort pour recruter une super vedette. Donc et ils en auront besoin de toute façon. D'ailleurs, Koeman et Henrik Larsson, son adjoint, travaillent là-dessus actuellement avec le nouveau directeur sportif. Donc, Sadio Mané, ça serait, sachant que lui, comme on l'a rappelé, souffre un peu de ce manque de reconnaissance par rapport à Mo Salah, qui est probablement un peu devant lui en termes de popularité à Liverpool. Effectivement,
c'est plus le cas, depuis deux saisons, c'est plus le cas. Il est
pas sur RFI en tout cas.
Non, sur RFI.
Dans les prix, il est devant Salah. Il est estimé, Mané.
Bruno, dans le genre Koeman qui veut un peu ramener les troupes qu'il connaît, il y a Wijnaldum, je ne sais pas si je le dis bien
dans quelques langues
que ce soit, mais c'est donc le joueur de Liverpool, lui, il pourrait rejoindre le Barça.
Lui, c'est un cas différent. Son contrat, déjà, il est à un an de la fin de son contrat.
Il n'a pas voulu le renouveler.
Il n'a pas voulu le renouveler. En tout cas, les discussions ni d'un côté ni de l'autre n'ont été entamées. Klopp préférait le garder, mais il n'est pas contre l'idée de le vendre à un bon prix. Parce qu'il est, de toute façon, il est en train de régénérer son milieu de terrain. Ils sont en discussion avec
Le prix dont on parle, c'est pas 100 ou 150 millions d'euros, quand même.
Oui, mais c'est pas Sadio Mané. C'est un milieu de terrain de 30 ans.
Ah, puis qui est surtout
c'est pas
un
tout
an
à fait le même profil et qui a un an de la fin de son contrat. S'il part pour, je crois qu'on est entre 15, 20, 25 millions d'euros, c'est pas dramatique. Et c'est surtout qu'il y a un milieu de terrain, il y a du monde au milieu de terrain. Ils veulent faire Thiago Alcantara, qui a un profil différent. Et puis surtout, il y a Naby Keita, qui depuis qu'il est arrivé, n'a pas encore totalement confirmé. Il a besoin davantage de temps de jeu et Klopp a besoin de l'installer.
Allez, on passe au sujet suivant, un peu encore d'argent et de foot business.
Chinese state TV is blacking out English Premier League football matches. Talk us through why this is happening.
Le marché asiatique est un véritable phare hein, pour les clubs européens qui, ces dernières années, en venaient, on s'en souvient, on en a parlé ici dans Radio Foot, ils modifient parfois l'heure des matchs pour être visibles par 1,5 milliard de Chinois. On se souvient de ce classico qui avait été programmé tout d'un coup à la mi-journée ou alors du nom de certains joueurs du Barça, écrit en chinois hein, sur le maillot Blaugrana. C'était en février 2019. Bon, puis il y a les tournées d'été, alors pas cette année bien sûr, mais qui vont souvent vers l'Orient. Et là, il s'agit bien d'un coup, c'est la Première Ligue qui était en Asie sans doute le championnat le plus suivi, en Chine aussi. Enfin, jusqu'au confinement, Bruno Constant, vous me confirmez, en Asie, le succès de la Première Ligue?
Ah ben, ça fait un carton. Carton absolu.
Mais alors là, il y a eu un fait nouveau, un contrat conclu entre la Première Ligue et PPTC, ça s'appelle, c'est une chaîne qui est sur Internet, une chaîne payante, qui vient d'être suspendue avant son terme par la chaîne anglaise. Est-ce que vous comprenez pourquoi ?
C'est un dossier extrêmement compliqué et qui, visiblement, est beaucoup plus politique que lié à aux diffusions de la Première Ligue.
Pour l'instant, on croirait que c'est parce qu'il y a une somme qui n'a pas été versée.
Ça, c'est la première chose. C'est qu'ils ont arrêté les paiements. On parle d'une somme de 160 millions de livres, donc 180 millions d'euros, un peu plus, qui n'a pas été versée. Mais l'enjeu derrière tout ça, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ce qu'on suspecte, c'est qu'il y a le blocage de la 5G avec les téléphones Huawei. Huawei, dans plusieurs pays, ça a été bloqué. Et à chaque fois que ça a été bloqué,
il y a des rétorsions.
Voilà, il y a des...
Donc c'est bloqué en Angleterre par Boris Johnson,
voilà,
récemment.
C'est un sujet
dans
très
la droite ligne des États-Unis.
Très épineux, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas diffuser la Première Ligue en Chine. C'est pas possible. Ça fait un carton, de plus en plus maintenant avec la rumeur Messi à Manchester City,
ah,
ça
aussi.
Exploserait encore un peu plus. Donc il ne peut pas se permettre. Le problème, c'est qu'il y a vraiment des blocages autour de ce dossier qui sont afférents, qui sont davantage politiques. Et c'est là où il y a effectivement... Pas qu'on ne comprend pas tout exactement ce qui se passe, mais le fait qu'ils aient suspendu ces paiements-là, alors que ce n'est pas les problèmes économiques de ces sociétés, dans toutes les sociétés ou tous les clubs où la Chine avait investi, il y a eu des rétropédalages de sponsoring ou d'investissement, liés principalement à ces décisions politiques.
En Angleterre.
En Angleterre, mais dans d'autres pays aussi.
Etienne,
en Chine
est-ce
aussi.
Que votre analyse est aussi plutôt géopolitique que financière ?
Sur ce dossier-là précisément, je sais pas très bien. Je vais suivre ce que dit Bruno, mais plus globalement, on peut imaginer qu'à certains moments, il y a des entreprises de télévision qui ont des problèmes pour payer les droits qu'ils ont promis aux ayants droit. Quand vous êtes des chaînes de télé,
énorme, hein.
Vous payez des sommes, et donc on peut se poser la question, par exemple pour le championnat de France, puisque donc on a un nouveau diffuseur, donc Mediapro, qui a appelé sa chaîne Téléfoot, qui d'ailleurs lequel Mediapro appartient à un fonds d'investissement chinois,
beaucoup plus chinois qu'espagnol, hein, voilà. Financièrement parlant.
Quand vous promettez près de 4 milliards d'euros, donc sur 4 ans. À une ligue de football pour créer une chaîne et que vous partez de zéro, les risques sont extrêmement importants. Et qu'est-ce qu'il se passe si jamais donc la réussite économique n'est pas au bout du chemin
et que le contexte n'aide pas en plus, oui, malheureusement.
On peut tout à fait imaginer qu'une chaîne ne puisse pas donc honorer ses engagements et que vous vous retrouvez. Mais d'ailleurs, la Première Ligue aujourd'hui commence à plafonner en matière de droits télévision parce qu'on a atteint quand même des sommets et qu'à un moment donné, il y a quand même des diffuseurs qui doivent avoir des clients pour pouvoir payer. Les droits qu'ils achètent. Donc la bulle, elle est spéculative. Alors on dit toujours ça va aller plus loin, mais à un moment donné, ça peut s'arrêter,
là,
ça peut exploser.
C'est pas le cas en Chine, parce que PPTC fait partie de Alibaba, le groupe Alibaba, qui est le Amazon chinois, donc qui est un truc énorme avec beaucoup, beaucoup d'argent. Et pour la diffusion de la Première Ligue en Chine, ils sont en partage avec CCTV, qui est la chaîne d'État. Donc en fait, c'est une décision éminemment politique. Et c'est là où ce qu'évoquait Bruno Constant est intéressant, parce qu'on va voir le poids de la Première Ligue vis-à-vis du public asiatique et notamment chinois. On va voir si le gouvernement, c'est un gouvernement communiste, faut le rappeler, qui contrôle tout.
C'est dictatorial.
On va voir s'ils vont devoir céder face à cette situation, s'ils vont devoir entre guillemets renégocier. C'est certain que la volonté de Xi Jinping et des dirigeants chinois, c'est de développer le foot chinois. C'est pour ça qu'ils avaient imposé au moment des transferts des joueurs que les sommes investies par les clubs de la CSL, la Super Ligue chinoise, sur le marché international,
soient limitées,
ou en tout cas qu'ils investissent l'équivalent dans les infrastructures et dans la formation en Chine. C'est-à-dire que le transfert d'un joueur comme Bakambu, qui était, je crois, à 30 millions d'euros, il fallait tout d'un coup que son nouveau club paye 30 millions à un fonds de fonds olympique.
C'est pour ça qu'ils
trouvaient des astuces pour Anthony Modeste. Ils ont fait des prêts d'un an à 6 millions d'euros, parce qu'en dessous de 6 millions d'euros ou 6 millions de dollars, je sais plus exactement, il n'y avait pas cette espèce d'obligation de cotiser au fond. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses d'ordre politique et réglementaire dans un contexte chinois qui est très spécifique et pas toujours facile pour nous à décrypter, qui explique cette situation.
Bruno, il y avait eu aussi déjà un premier couac, c'était au moment où Mesut Özil avait pris position en soutenant les Ouïghours et en le faisant savoir. Et du coup, il y avait un match qui avait disparu. Alors là, c'était pas PPTC, c'était CCTV, la chaîne d'État, et le match avait été déprogrammé.
Ouais. Oui, il y a eu ce problème-là, qui est un peu surpris et qu'on pense d'ailleurs lié à cette décision du diffuseur. Il y a aussi, dans le cas de la NBA, le club, la franchise de Houston, qui avait protesté également, et tous les matchs de NBA avaient été déprogrammés par CCTV. Donc ça fait beaucoup de décisions qui sont liées à des actes politiques, et ce qui fait que ça remet un peu en cause l'idée que c'est une histoire économique, même si le fond du problème au tout début, c'est que sur le contrat qui avait été dealé entre la chaîne chinoise et la Première Ligue, c'était un certain montant que l'entreprise chinoise voulait renégocier à cause du Covid. Et il y a même une blague entre guillemets, un jeu d'humour sur les contrats en Chine, où on explique que la négociation débute une fois que le contrat a été signé. C'est quelque peu un peu traditionnel. Et la Première Ligue ne veut surtout pas renégocier ses contrats.
Ouais. À suivre, en tout cas, on verra si les Chinois ont finalement droit de regarder ou pas la première ligue anglaise qui les passionne.
Le Brésil, c'est le pays de Pelé, de Ronaldo, de Neymar, des 5 étoiles brodées sur le maillot. C'est aussi le pays de Marta, la grande vedette de la Seleção féminine. Elle gagnera autant que les joueurs qui portent le maillot jaune et vert, même chose pour ses coéquipières.
Marta, Formiga et leur copine viennent d'obtenir une jolie victoire. Pas sur le terrain, mais comme on dit, sur le terrain vert. Hein, et, enfin, pas en tout cas une pelouse, mais sur un bureau. Allez, symbolique, c'est un bel avantage en effet pour les footballeuses du Brésil, dans un pays marqué par les 5 Coupes du Monde, pourtant gagnées par les hommes. Dans un pays aussi plutôt machiste, eh bien, les joueuses jouant pour l'équipe nationale seront désormais payées autant que les garçons quand elles joueront pour donc l'équipe nationale. Plus de différence de genre, c'est ce qu'a déclaré le président de la CBF, Rogério Caboclo. Alors, uniquement sous les couleurs jaune et verte, c'est la parité qui va primer désormais. Est-ce que c'est une belle victoire pour ces internationales, selon vous, Étienne Moati?
C'est indiscutablement une belle victoire pour elle. Et après, la question est de savoir est-ce que c'est juste ou pas. Alors sur le marché brésilien, je me prononcerai pas. Mais évidemment, on peut se poser le même type de question pour le football en France. Est-ce que, ouais, par exemple.
Alors déjà, parlons des brésiliennes parce que effectivement, elles ont une aura. Il y a Marta qui a été souvent.
L'équipe masculine aussi a une certaine aura quand même au Brésil, je crois.
Aura Vardé, et beaucoup de joueurs en plus. Mais justement, est-ce que c'est pas encore plus frappant que les filles aient obtenu ça là-bas, ou vous pensez que c'est aussi dans le vent de...
Non, mais c'est une décision. On était sur les décisions politiques qui sont prises en matière de droit télévisé. Là, c'est évidemment une décision éminemment politique qui est prise au Brésil. Voilà, maintenant, le football brésilien féminin au Brésil, même s'il y a Marta, même s'il y a eu beaucoup de succès, beaucoup de grandes joueuses, évidemment, donc il y a des années-lumière de ce qui se fait chez les garçons. Donc est-ce qu'on peut se poser la question? C'est un débat un petit peu éternel. Est-ce qu'il doit y avoir une parité financière et à tout point de vue, donc entre les hommes et les femmes dans les compétitions sportives ou pas?
Moi, je pense
que vous pouvez absolument pas comparer. Vous avez, par exemple, pour revenir un peu à la France, que je connais quand même mieux que le championnat féminin du Brésil, vous avez un championnat qui est un championnat amateur, où vous avez très peu d'équipes professionnelles.
Et
comment vous pouvez comparer donc avec des joueurs qui, pour les garçons, jouent dans les plus grands clubs européens et qui d'ailleurs, ce qu'ils vont percevoir en équipe de France a finalement assez peu d'importance et pour eux, c'est quasiment un pourboire. Donc, compliqué de comparer, et en tout cas, c'est compliqué de tout mettre sur le même plan de mon point de vue.
En tout cas, Marta, on la connaît parce qu'elle avait remporté, alors à l'époque, le Ballon d'Or pour les filles, il n'existait pas avec France Football, mais elle a été distinguée 6 fois comme meilleure joueuse du monde. La fameuse Marta, on l'avait vue en France durant la Coupe du Monde l'année dernière en 2019. Elle avait alors marqué un but, c'était contre les Italiennes. Son 17e but, c'était mieux que Miroslav Klose, puisqu'elle se compare évidemment à prouesses que font les hommes en Coupe du Monde.
Une petite pierre à l'édifice de notre lutte quotidienne pour l'égalité, la prise de pouvoir, d'exigence pour le respect de nos droits, principalement le combat pour l'égalité des sexes. Ce but, il est pour nous toutes les femmes, et pour les hommes aussi, pour qu'ils comprennent une fois pour toutes que le sport peut être pratiqué à la perfection, autant par les hommes que les femmes.
Elles peuvent faire aussi bien, disent-elles.
Non, mais je pense que c'est très important politiquement, effectivement, cette décision, parce que bon, on connaît pas exactement toutes les règles d'application de cette décision, mais comme
l'année prochaine, en tout cas pour les JO, par exemple, où elles iront, où elles ont déjà gagné 2 médailles d'argent, et pour la Coupe du Monde de 2023, elles auront les mêmes indemnités et les mêmes conditions.
Comme disait Étienne Moati, pour les joueurs hommes professionnels, les primes de Coupe du Monde, c'est peanuts, quoi. Je crois, c'est quoi? C'était 200 000 euros par joueur.
Un tout petit peu plus, on arrive à monter jusqu'à 300.
Voilà, 300 000, mais pour un Neymar, c'est quoi 300 000 euros?
Lui aussi gagne près de 100 millions par an.
En revanche, pour une jeune femme qui joue au football, c'est énorme, parce qu'effectivement, les salaires, et il y a et la plupart des bonnes joueuses brésiliennes pardon, sont dans des clubs européens.
Ou américains.
C'est effectivement une somme colossale. Donc là, effectivement, c'est un signe très fort. Mais je pense que c'est aussi un signe important pour le Brésil, parce que si on regarde la sélection qui a disputé la Coupe du Monde l'année dernière, avec Marta Formiga et quelques autres, c'était toutes des trentenaires, voire des quarantenaires. Donc, je pense qu'il y a un problème de régénération de la Seleção féminine. Il y a un problème de vocation, je pense aussi, pour les jeunes filles, pouvoir vivre du football à l'égal des hommes. Et si déjà la sélection leur donne cette possibilité de gagner bien leur vie, ce sera peut-être plus facile pour elles de trouver des places dans les clubs européens, parce que si vous regardez bien les effectifs des clubs européens, eh bien, on forme tellement de bonnes joueuses en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre aujourd'hui, qu'on va plus chercher de brésiliennes.
Oui, de moins en moins. Bruno, elles ont, ces filles surtout, malgré tout au Brésil, la fois où elles ont joué contre la France dans cette Coupe du Monde et elles avaient été éliminées en huitième de finale, il y avait eu 35 millions de téléspectateurs. Mmh. Ça veut dire qu'au-delà de qui joue homme ou femme, il y a quand même un intérêt aussi dans ce pays pour les filles.
Bah ouais, parce que moi, à chaque fois que je me suis rendu au Brésil, j'avais été très surpris, étonné de voir sur les plages des filles qui jouent au foot. Il y avait beaucoup de filles avec des ballons, il y avait beaucoup de filles dans les stades de foot pour voir des matchs. Je trouvais que c'était plutôt un public mixte et qu'il y a une vraie passion pour ce sport dans ce pays. Après, de manière générale, sur cette question d'égalité homme-femme, il faut bien faire la différence entre ce qui se passe en club, qui est pour moi quasiment impossible à arriver à une équité, on revient toujours au même problème, c'est par rapport à ce que rapportent aussi les joueuses.
Exactement.
Et les joueurs.
Et
au niveau fédéral, pour moi, ça peut être un peu différent. Moi, j'aimerais savoir quelle est la part dans cette décision des joueurs du Brésil. Est-ce que la sélection masculine a eu un rôle dans cette décision-là? Parce que l'argent qui arrive pour les femmes, j'imagine qu'il est pris ailleurs. Donc, est-ce que c'est un vase communicant? Est-ce qu'en France, par exemple, on pourrait imaginer des joueurs de l'équipe de France reverser une partie de leur somme ou demander à ce qu'il y ait une équité avec les femmes, par exemple?
Les contrats, mais Étienne connaît ça mieux que moi, mais les contrats de l'équipe de France de football, c'est ça qui nourrit tout le football amateur, notamment hein, les gros contrats que signe l'équipe de France. Donc, effectivement, après, c'est un choix politique pour redistribuer cet argent.
Étienne, on voit ça des Brésiliennes. Les Australiennes avaient obtenu ça. Les Américaines, qui ont un palmarès absolument incroyable, 4 Coupes du Monde. Elles n'ont même pas réussi, avec notamment Rapinoe, hein, qu'on connaît, leur capitaine, elles n'ont pas réussi à obtenir ça. Donc c'est une lutte compliquée pour les filles, effectivement.
Oui, c'est une lutte compliquée, mais il y a aussi des données économiques. Par exemple, en France, la Fédération française, pour les Euros et les Coupes du Monde, en fait, elle reverse aux joueurs une part de ce qui est versé par la FIFA. Donc finalement, ce n'est pas véritablement une décision de la Fédération française. Elle prend les sommes qui sont données par la FIFA, elle en donne, je crois, autour de 30% qui vont directement donc pour les joueurs. Il se trouve que la FIFA, pour les Coupes du Monde féminines, donne beaucoup moins. Mais les sommes sont en train d'augmenter, puisque quand même la FIFA et l'UEFA pour les euros féminins commencent donc à verser aux fédérations des sommes plus importantes. De toute façon, mécaniquement, je pense que dans les années qui viennent, les sommes qui seront versées donc pour les grandes compétitions aux joueuses de football vont augmenter.
Ah oui, parce que c'est ça, il faut que les filles attirent la lumière aussi sur les championnats.
Ce que vous avez dit est parfaitement vrai. On a été quand même extrêmement surpris par les audiences qui ont été faites en France pour la Coupe du Monde féminine, où le drapeau de la français, le maillot de la sélection, ça jouait énormément. Et finalement, on finissait par avoir des audiences quasiment équivalentes pour les femmes que pour les hommes.
Eh oui, hein, on y arrive.
On s'en réjouit, Annie, vous le savez bien.
J'espère bien. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci donc à Laurent Salerno qui était à la réalisation aujourd'hui avec David Brocouet et David Finzel. On se retrouve demain pour le Café des Sports. Merci à tous et à demain.